Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et nous voici de nouveau ensemble pour nos lectures en liberté avec la suite du Gargantua de François Rabelais. L'étude de Gargantua selon les règles de ses précepteurs sophistes. Gargantua souhaita de tout cœur se livrer à l'étude en s'en remettant à Ponocrates. Mais celui-ci, pour commencer, lui ordonna de se comporter selon sa méthode habituelle afin de savoir par quel processus, et en un temps si long, ses anciens précepteurs l'avaient rendu si sot, niais et ignorant. Il employait donc son temps de telle sorte. Il s'éveillait d'ordinaire entre 8 et 9 heures, qu'il fasse jour ou non. C'est ce qu'avaient ordonné ses anciens maîtres, alléguant les paroles de David, « C'est vanité de vous lever avant la lumière ». Puis il gambadait, sautillait, se vautrait sur la paillasse un bon moment, pour mieux ragaillardir ses esprits animaux. Et il s'habillait selon la saison, mais portait volontiers une grande et longue robe de grosse laine grège fourrée de renard. Après, il se peignait avec le peigne d'Almain, c'est-à-dire avec les 4 doigts et le pouce, car ses précepteurs disaient que se peigner, se laver et se nettoyer de toute autre façon revenait à perdre son temps en ce monde. Puis il fientait, pissait, se raclait la gorge, rôtait, pétait, bâillait, crachait, toussait, sanglotait, éternuait, se mouchait en archidiacre, et pour abattre la rosée et le mauvais air, il déjeunait de belles tripes frites, de belles grillades, de beaux jambons, de belles pièces de chevreau et de force tartine matutinale. Ponocrates, lui faisant remarquer qu'il n'aurait pas dû s'empiffrer si brusquement au saut du lit, sans avoir fait quelque exercice au préalable, Gargantua répondit « Quoi ? N'ai-je pas fait suffisamment d'exercice ? N'est-ce pas assez ? Je me suis vautré 6 ou 7 tours à travers le lit avant de me lever. C'est ce que faisait, sur les conseils de son médecin juif, le pape Alexandre, et il vécut jusqu'à sa mort en dépit des envieux. Mes premiers maîtres, qui m'ont donné cette habitude, disaient que le déjeuner du matin donnait bonne mémoire. Aussi étaient-ils les premiers à y boire, je m'en trouve fort bien et je n'en dîne que mieux. Et maître Tubal, qui fut le premier de sa licence à Paris, me disait que le plus profitable n'est pas de courir bien vite, mais de partir de bonne heure. Aussi, la bonne santé intégrale de notre humanité, ce n'est pas de boire des tas, comme les cannes, mais c'est bien de boire matin. D'où le verset « Lever matin, ce n'est pas bonheur, boire matin, c'est bien meilleur ». Après avoir déjeuné comme il faut, il allait à l'église. Et on lui apportait dans un grand panier un gros bréviaire en mitouflé, pesant tant en graisse qu'en fermoir et parchemin, 11 quintaux, 6 livres, à peu de choses près. Là, il entendait 26 ou 30 messes. À ce moment-là, venait son diseur d'heure en titre, encapuchonné comme une huppe, ayant bien immunisé son haleine à coups de sirop de vigne. Il marmonnait avec lui toutes ses kyrielles et les épluchait si soigneusement que pas un seul grain n'en tombait en terre. Au sortir de l'église, on lui apportait sur un fardillet à bœuf un tas de chapelets de Saint-Claude, dont chaque grain était gros comme le moule d'un bonnet. Et en se promenant à travers les cloîtres, les galeries et les jardins, il en disait plus que 16 ermites. Puis il étudiait. Pendant une méchante demi-heure, les yeux assis sur le livre, mais comme dit le comique, son âme était à la cuisine. Pissant donc un plein urinoir, il s'asseyait à table, et parce qu'il était d'une nature flegmatique, commençait son repas par quelques douzaines de jambons, de langues de bœuf fumées, de boutargues, d'andouilles et d'autres avant-coureurs de vin. Pendant ce temps-là, quatre de ces gens, l'un après l'autre, lui jetaient dans la bouche sans interruption de la moutarde à pleine pelletée. Puis il buvait un horrifique trait de vin blanc pour se soulager les rognons. Après, il mangeait selon la saison des plats à la mesure de son appétit et cessait de manger quand le ventre lui tirait. En matière de boisson, il ne connaissait ni fin ni règle, car il disait que les limites et les bornes du boire apparaissaient quand le liège des pantoufles du buveur s'enflait d'un demi-pied en hauteur. Les jeux de Gargantua. Puis, marmottant tout alourdi une bribe de prière, il se lavait les mains de vin frais, se curait les dents avec un pied de porc et devisait joyeusement avec ses gens. Ensuite, le tapis vert étendu, on étalait force carte, force dé, force tablette, et alors il jouait. Il jouait au flux, à la prime, à la vole, à la pigue, à la triomphe, à la picardie, au sang, à l'épinet, à la malheureuse, au fourbi, à la passe à 10, à 31, à paire et séquence, à 300, au malheureux, à la condémade, à la carte virade, au malcontent, au lansquenet, au cocu, à qui en a parlé, à pille, nat, joc fort, au mariage, au jet, à l'opinion, à qui fait l'un fait l'autre, à la séquence, au luette, au tarot, à coquimbert qui gagne père, au couillonné, au tourment, à la ronfle, au glic, aux zones à l'amour, aux échecs, aux renards, à la marelle, aux vaches, à la bascule, au laboureur, à la chevêche, aux écoublettes enragées, à la bête morte, à monte, monte l'échelette, à pourceau mort, à cul salé, au pigeonnet, au tiers, à la bourrée, au saut du buisson, à croiser, à cul de cache, à la maille bourse en cul, au nid de la bondrée, au passe-avant, à la figue, aux pétarades, à la pile moutarde, au cambosse, à la rechute, au picando, à croque-tête, à la grolle, à la grue, à taïkou, aux nasardes, aux alouettes, aux chiquenaudes. Après avoir bien joué, passé, tamisé et bluté le temps, on était d'accord pour boire quelque peu, c'est-à-dire 11 setiers par tête, et aussitôt, après avoir banqueté, de s'étendre sur un beau banc ou en plein mi-temps d'un bon lit pour y dormir 2 ou 3 heures sans penser à mal ni dire du mal. Quand il s'éveillait, il secouait un peu les oreilles. À ce moment, on lui apportait du vin frais, et alors, il buvait mieux que jamais. Ponocrates lui faisait remarquer que c'était un mauvais régime que de boire de la sorte après dormir.
Bah, « C'est la vraie vie des pères, » répondit Gargantua, « car, par nature, je dors salé, et le dormir me fait le même effet que du jambon. »
Puis il commençait à étudier quelque peu, et en avant les patenôtres. Pour les expédier plus pertinemment, il montait sur une vieille mule qui avait servi 9 rois. Ainsi, marmottant de la bouche et dodelinant de la tête, il allait voir prendre quelques lapins au filet. Au retour, il se transportait à la cuisine pour voir quel rôt était en broche. Et il soupait de bon cœur sur mon âme. Il conviait volontiers quelques buveurs de ses voisins avec lesquels il buvait à qui mieux. Il contait des histoires, des vieilles et des nouvelles. Il avait pour familier, entre autres, les seigneurs Dufou, de Gourville, de Grignot et de Marigny. Après le souper, prenaient place les beaux évangiles de bois, c'est-à-dire force tapis de jeu, et c'était le beau flux 1, 2, 3, on quitte ou double, pour abréger. Sinon, ils allaient voir les filles des alentours. Alors, c'était de petits banquets parmi collations et pousse-collations, puis ils dormaient sans débrider jusqu'au lendemain 8 heures. Comment Gargantua fut éduqué par Ponocrates selon une méthode telle qu'il ne perdait pas une heure de la journée. Quand Ponocrates
eut pris connaissance du vicieux mode de vie de Gargantua, il décida de lui inculquer les belles lettres d'une autre manière. Mais pour les premiers jours, il ferma les yeux, considérant que la nature ne subit pas sans grande violence des mutations soudaines. Aussi, pour mieux commencer sa tâche, pria-t-il instamment un docte médecin de ce temps-là, nommé Maître Théodore, de considérer s'il était possible de remettre Gargantua en meilleure voie. Celui-là le purgea en règle avec de l'hélébore d'Atticyre, et grâce à ce médicament, il lui nettoya le cerveau de toute corruption et de toute vicieuse habitude. Par ce biais, Ponocrates lui fit aussi oublier tout ce qu'il avait appris avec ses anciens précepteurs, comme faisait Timothée avec ceux de ses disciples qui avaient été formés par d'autres musiciens. Pour parfaire le traitement, il l'introduisait dans les cénacles de gens de science du voisinage. Par émulation, il se développa l'esprit et le désir lui vint d'étudier selon d'autres méthodes et de se mettre en valeur. Ensuite, il se soumit à un rythme de travail tel qu'il ne perdait pas une heure de la journée, mais consacrait au contraire tout son temps aux lettres et aux études libérales. Gargantua s'éveillait donc vers 4 heures du matin. Pendant qu'on le frictionnait, on lui lisait quelques pages des Saintes Écritures à voix haute et claire avec la prononciation requise. Cet office était dévolu à un jeune page natif de Baché nommé Ananiostès. Suivant le thème et le sujet du passage, bien souvent il s'appliquait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu dont la majesté et les merveilleux jugements apparaissaient à la lecture. Puis il allait au lieu secret, excréter le produit des digestions naturelles. Là, son précepteur répétait ce qu'on avait lu et lui expliquait les passages les plus obscurs et les plus difficiles. En revenant, il considérait l'état du ciel, regardant s'il l'était comme il l'avait remarqué la veille au soir, et en quel signe entrait le soleil, et aussi la lune, ce jour-là.
C'est le prince d'Orange, tôt matin s'est levé, est allé voir son page, Vasselet mon coursier. Que maudit soit la guerre, Vasselet mon coursier. Est allé voir son page, Vasselet mon coursier. Mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller? Que maudit soit la guerre, où voulez-vous aller? Mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller? Je veux aller en France où le roi m'a mandé. Que maudit soit la guerre où le roi m'a mandé. Je veux aller en France où le roi m'a mandé. Mis la main sur la bride, le pied dans l'étrier. Que maudit soit la guerre, le pied dans l'étrier. Mis la main sur la bride, le pied dans l'étrier. Je partis sain et sauf et j'en revins blessé. Que maudit soit la guerre et j'en revins blessé. Le beau prince d'Orange avait mort et en enterré. Que maudit soit la guerre et mort et enterré. Le beau prince d'Orange est mort et enterré. Les rues portées en terre par quatre cordeliers. Que maudit soit la guerre par quatre cordeliers.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Toujours François Rabelais et les aventures de Gargantua. Cela fait, il était habillé, peigné, coiffé, apprêté et parfumé. Et pendant ce temps, on lui répétait les leçons de la veille. Lui-même les récitait par cœur et y appliquait des exemples pratiques concernant la condition humaine. Il poursuivait quelquefois ce propos pendant 2 ou 3 heures, mais d'habitude il s'arrêtait quand il était complètement habillé. Ensuite, pendant 3 bonnes heures, on lui faisait la lecture. Cela fait, il sortait, toujours en discutant du sujet de la lecture, et allait faire du sport au grand braque ou dans les prés. Il jouait à la balle, à la paume, au ballon à 3, s'exerçant élégamment les corps comme il s'était auparavant exercé les âmes. Toujours, leur jeu n'était que liberté, car ils abandonnaient la partie quand il leur plaisait, et ils s'arrêtaient en général quand la sueur leur coulait par le corps ou qu'ils ressentaient autrement la fatigue. Ils s'étaient alors très bien essuyés et frottés, ils changeaient de chemise et allaient voir si le repas était prêt en se promenant doucement. Là, en attendant, ils récitaient à voix claire et en belle élocution quelques formules retenues de la leçon. Cependant, Monsieur l'Appétit venait, et c'était juste au bon moment qu'il s'asseyait à table. Au début du repas, on lisait quelques plaisantes histoires des gestes anciens, jusqu'à ce qu'il eût pris son vin. Alors, si on le jugeait bon, on poursuivait la lecture, où ils commençaient à deviser ensemble, joyeusement, parlant pendant les premiers mois des vertus et propriétés, de l'efficacité et de la nature de tout ce qui leur était servi à table, du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes, des poissons, des fruits, des herbes, des racines et de leur préparation. Ce faisant, Gargantua apprit en peu de temps tous les passages relatifs à ce sujet. D'Ampline, Athénée, Dioscorides, Julius Pollux, Galien, Porphyre, Oppien, Polybe, Héliodore, Aristote, Élien et d'autres. Sur de tels propos, il faisait souvent, pour plus de sûreté, apporter à table les livres cités plus haut. Gargantua retint si bien et si intégralement les propos tenus qu'il n'y avait pas alors un seul médecin qui sût la moitié de ce qu'il avait retenu. Après, il parlait des leçons lues dans la matinée, et terminant le repas par quelques confitures de coing, il se curait les dents avec un brin de lentisque, se lavait les mains et les yeux de belle eau fraîche, et tous rendaient grâce à Dieu par quelques beaux cantiques à la louange de la munificence et de la bonté divine. Sur ce, on apportait des cartes, non pas pour jouer, mais pour apprendre 1000 petits amusements et inventions nouvelles qui relevaient tous d'arithmétique. Par ce biais, il prit goût à cette science des nombres, et tous les jours, après le dîner et le souper, il y passait son temps avec autant de plaisir qu'il pouvait en prendre aux dés et aux cartes. Il en connut si bien la théorie et la pratique que Tunstall, l'Anglais, qui avait écrit d'abondance sur le sujet, confessa que, comparé à Gargantua, il n'y comprenait que le haut allemand. Et non seulement il y prit goût à cette discipline, mais aussi aux autres sciences mathématiques comme la géométrie, l'astronomie et la musique. Mais en attendant la digestion et l'assimilation de son repas, il faisait 1000 joyeux instruments et figures de géométrie, et de même, il vérifiait les lois astronomiques. Après, il se divertissait en chantant sur une musique à 4 ou 5 parties ou en faisant des variations vocales sur un thème. Côté instrument de musique, il apprit à jouer du luth, de l'épinette, de la harpe, de la flûte traversière et de la flûte à 9 trous, de la viole et du trombone. Cette heure employée de la sorte et sa digestion bien achevée, il se purgeait de ses excréments naturels et se remettait à l'étude de son sujet principal pour 3 heures ou plus, tant pour répéter la lecture du matin que pour poursuivre le livre entrepris et aussi écrire, apprendre à bien tracer et former les caractères antiques et romains. Cela fait, il sortait de leur demeure accompagné d'un jeune gentilhomme de Touraine nommé l'écuyer Gymnaste, qui lui enseignait l'art de la chevalerie. Changeant alors de tenue, il montait un cheval de bataille, un roussin, un genet, un cheval barbe, un cheval léger, et lui faisait faire 100 tours de manège, le faisait volter en sautant, franchir le fossé, passer la barrière, tourner court dans un cercle, à droite comme à gauche. Alors, il ne rompait pas la lance, car c'est la plus grande sottise du monde que de dire « j'ai rompu 10 lances au tournoi ou à la bataille ». Un charpentier en ferait autant. Par contre, c'est une gloire dont on peut se louer que d'avoir rompu 10 ennemis avec la même lance. Donc, de sa lance acérée, solide et rigide, il rompait une porte, enfonçait une armure, renversait un arbre, enfilait un anneau, enlevait une selle d'armes, un haubert, un gantelet, tout cela armé de pied en cap. Quant à parader et faire les petits exercices de manège, nul sur un cheval ne le faisait mieux que lui. Le maître écuyer de Ferrare n'était qu'un singe en comparaison. On lui apprenait notamment à sauter en vitesse d'un cheval sur un autre sans mettre pied à terre. Ses chevaux étaient dits de voltige. À monter des deux côtés, sans étrier, et la lance au poing. À guider à volonté le cheval sans bride, car de telles choses sont utiles en l'art militaire. Un autre jour, il s'exerçait à la hache, il la faisait bien, glissait, multipliait si vivement les coups de pointe, assénait si souplement les coups de taille ronde qu'il aurait pu passer chevalier d'armes en campagne et dans toutes les épreuves. Puis il brandissait la pique, frappait de l'épée à deux mains, de l'épée bâtarde, de la rapière, de la dague et du poignard avec ou sans armure, au bouclier, à la cape ou à la ronde hache. Il courait le cerf, le chevreuil, l'ours, le daim, le sanglier, le lièvre, la perdrix, le faisan, l'outarde. Il jouait au ballon et le faisait rebondir du pied et du poing. Il luttait, courait, sautait, non avec 3 pas d'élan, ni à cloche-pied, ni à l'allemande, car Gymnaste disait que de tels sauts sont inutiles et ne servent à rien en temps de guerre. Mais d'un saut, il franchissait un fossé, volait par-dessus une haie, montait 6 pas contre une muraille et grimpait de telle façon jusqu'à une fenêtre à la hauteur d'une lance. Il nageait en l'eau profonde, à l'endroit, à l'envers, sur le côté, de tous les membres ou seulement des pieds avec une main en l'air portant un livre. Il traversait toute la Seine sans le mouiller, en traînant son manteau avec les dents comme faisait Jules César. Puis, à la force d'une seule main, il montait dans un bateau en se rétablissant énergiquement. De là, il se jetait de nouveau à l'eau, la tête la première, sondait le fond, explorait le creux des rochers, plongeait dans les trous et les gouffres. Puis il manœuvrait le bateau, le dirigeait, le menait rapidement, lentement, au fil de l'eau ou à contre-courant, le retenait au milieu d'une écluse, le guidait d'une main, ferraillant de l'autre, avec un grand aviron, hissait les voiles, montait au mât par les cordages, courait sur les vergues, réglait la boussole, tendait les boulines, tenait ferme le gouvernail. Sortant de l'eau, il gravissait tout droit la montagne, et en dévalait aussi directement, montait aux arbres comme un chat, sautait de l'un à l'autre comme un écureuil, abattait les grosses branches comme un autre milon. Avec 2 poignards acérés et 2 poinçons à toute épreuve, il grimpait en haut d'une maison comme un rat, puis sautait en bas, les membres ramassés de telle sorte qu'il ne souffrait nullement de la chute. Il lançait le dard, la barre, la pierre, la javeline, les pieux, la hallebarde. Il bandait l'arc, tendait à force de reins les grosses arbalètes de siège, épaulait l'arquebuse, mettait le canon sur affût, tirait à la butte au perroquet de bas en haut, de haut en bas, en face, sur le côté, en arrière, comme les partes. Pour lui, on attachait à quelque haute tour un câble pendant jusqu'à terre. Il y montait à 2 mains, puis redescendait si vivement et avec autant d'assurance que vous ne feriez pas mieux dans un pré bien nivelé. On tendait pour lui une grosse perche entre 2 arbres. Il s'y pendait par les mains, allait et venait sans rien toucher des pieds, si bien que même en courant à toute vitesse, on aurait pu l'attraper. Et pour s'exercer la poitrine et les poumons, il criait comme tous les diables. Une fois, je l'ai entendu jusqu'à Montmartre appeler Eudémon depuis la porte Saint-Victor. Stentor à la bataille de Troie, n'eut jamais une telle voix. Et pour fortifier ses muscles, on lui avait fait de gros saumons de plomb pesant chacun 8700 quintaux et qu'il appelait des haltères. Il les prenait au sol dans chaque main et les élevait au-dessus de sa tête. Il le tenait ainsi, sans bouger, trois quarts d'heure et plus, ce qui dénotait une force incomparable. Il jouait au bar avec les plus forts. Et quand arrivait le choc, il se tenait si solidement sur ses jambes qu'il voulait bien que les plus téméraires disposassent de lui pour voir si par hasard il pouvait le faire bouger comme faisait jadis Milon. De même, à l'imitation de ce dernier, il tenait une grenade dans sa main et il la proposait à qui pourrait la lui arracher. Ayant ainsi employé son temps, frictionné, nettoyé, ses vêtements changés, Gargantua revenait tout doucement et en passant par quelques prés ou autres lieux herbeux, il examinait les arbres et les plantes et en dissertait en se référant aux livres des anciens qui ont traité de ce sujet, comme Théophraste, Dioscoride, Marinus, Pline, Nicandre, Macère et Galien. Ils emportaient au logis pleines mains d'échantillons. Un jeune page nommé Rhytosome en avait la charge, ainsi que des binettes, pioches, serfouettes, bêches, sarcloirs et autres instruments indispensables pour bien herboriser. Une fois arrivé au logis, il répétait, pendant qu'on préparait le repas, quelques passages de ce qui avait été lu et s'asseyait à table. Remarquez que son dîner était sobre et frugal, car il ne mangeait que pour apaiser les abois de son estomac. Mais le souper était abondant et copieux, car il prenait tout ce qui lui était nécessaire pour son entretien et sa nourriture. C'est la vraie diététique prescrite par l'art de la bonne et sûre médecine. Bien qu'un tas de sots médicastres secoués par les officines des sophistes conseillent le contraire. Après avoir rendu grâce, il se mettait à chanter en musique, à jouer d'instruments harmonieux ou se livrait à ces petits divertissements qu'offrent les cartes, les dés et les cornets. En pleine nuit, avant de se retirer, ils allaient à l'endroit le plus découvert de la maison pour regarder l'aspect du ciel. Et là, ils observaient les comètes, s'il y en avait, les figures, les situations, les positions, les oppositions et les conjonctions des astres. Puis, avec son précepteur, Gargantua récapitulait brièvement, à la mode des pythagoriciens, tout ce qu'il avait vu, lu, su, fait et entendu au cours de toute la journée. Et il priait Dieu le Créateur, l'adorant et confirmant leur foi en lui, le glorifiant pour son immense bonté, lui rendant grâce pour tout le temps écoulé et se recommandant à sa divine clémence pour tout l'avenir. Cela fait, ils entraient en leur repos. Voilà donc pour ce soir cette histoire de Gargantua de François Rabelais que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.